Notre Seigneur d'amour, notre Dieu précieux, notre Père d'amour éternel, merci de ce moment autour de ta parole qui est notre nourriture, la seule nourriture qui vient du ciel. Merci Seigneur, merci de ton amour, merci d'avoir nous avoir rachetés, merci de ta grâce, ta miséricorde, ton pardon. Et s'il te plaît, dans ce moment de considération, de réflexion sur ta parole, parle à nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin, nous ne méritons pas, mais nous avons besoin, et c'est bien ta volonté. Sanctifie-nous. Nous te prions au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, qu'ils joignent une fois encore, que nous sommes là autour de la précieuse parole de notre Seigneur. J'aimerais bien partager avec vous. Déjà, la parole de Dieu, elle nous dit en 1 Thessaloniciens 4, 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctification, si nous cherchons dans la parole de Dieu sa valeur, sa signification, c'est séparation. C'est pour ça que Dieu, il est saint, saint, saint. Il est tout à fait, complètement séparé. Séparé de quoi? De tout ce qui n'est pas juste, bon, bien, tout ce qui n'est pas véritable. C'est pour ça qu'il est absolument saint. Et il veut notre sanctification. La parole de Dieu nous dit que Dieu, même avant la création du monde, il pensait déjà à notre salut afin de nous rendre plus semblable à l'image de son Fils. Nous avons cette vérité, cette déclaration en Romains chapitre 8. Et voilà, chaque fois que nous nous sommes rendus plus semblables à notre Seigneur Jésus, pourvu qu'il est, il est saint, il est séparé du péché, voilà que notre sanctification, elle a place. Et voilà, la Bible, elle nous laisse bien clair. C'est la volonté de Dieu, notre sanctification. En parlant de sanctification, on parlera d'une attitude. C'est ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ça parle d'une attitude, notre position devant la réalité. Et nous avons un exemple, une façon de bien commencer à avoir l'idée de cette attitude qu'il nous faut en Philippiens. En Philippiens, le chapitre 4, de 10 à 19, nous avons le lien entre Paul et les Philippiens. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur » de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasi et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce que vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu, que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voilà la gratitude que Paul a face à l'attitude des Philippiens. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire ça? Le chapitre 4, si nous prenons les versets 11 et 14, nous lisons « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Oui, il dit merci de ce qu'ils ont envoyé des dons à lui. Mais il dit, si je vous remercie, c'est plutôt à cause de votre attitude, c'est à cause de votre intention de savoir que vous êtes là dans cette connexion avec moi. Parce que moi, si je suis dans le besoin, si je suis dans l'abondance, voilà, j'ai appris à vivre comme ça. Et alors, quand je vous remercie, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. C'est la gratitude pour leur attitude. Alors, qu'est-ce que c'est l'attitude? Est-ce que c'est la pensée qu'on a? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un acte, une action? Qu'est-ce que c'est l'attitude qui sera très important dans le champ de notre sanctification? L'attitude est notre disposition face à la réalité. C'est toujours comme l'exemple du verre d'eau. Quelqu'un va regarder ce verre d'eau et il va dire « Ah, voilà, il est rempli à la moitié. » Ou un autre va dire « il est vide, il est à la moitié vide. » Alors, c'est le même verre avec la même quantité d'eau, mais c'est la disposition face à la réalité. Il y a des gens qui vont vivre la même situation. Ils vont dire « Oh, grâce à Dieu. » Et d'autres vont dire « Ah, qu'est-ce que la vie est pénible face à la même situation ?» Voilà, l'attitude, c'est la disposition face à la réalité. Voyons déjà, parce que toujours c'est la parole de Dieu qui nous apprend, Matthieu 20, 28 dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon des plusieurs. » Peut-être tu diras, Eliel, mais tu as mis servir. Servir, c'est une action, c'est un acte. Le Seigneur Jésus, dans l'attitude, dans sa disposition face à la réalité de servir, il a produit, il a fait plusieurs et différents actes. Il a ressuscité quelqu'un, il a guéri un autre, il a multiplié la nourriture, tout ça, ce sont des actes. Mais l'attitude, la disposition face à la réalité qu'il avait, c'était l'attitude de servir. Qu'est-ce qu'une pensée? Ça c'est bien fait simple, hein? Ce que quelqu'un pense. Par exemple, à ce moment-là, peut-être que quelqu'un pense « Où est-ce qu'il va arriver avec tout ça ?» Mais il ne le verbalise pas, mais il pense cela dans sa tête. Une pensée. Exemple de la parole de Dieu. « Et il raisonnait en lui-même, disant » Mais ce n'est pas « disant » avec la bouche, c'est dans sa tête. Parce qu'il raisonnait. « Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Luc 12, 17. Et alors, en comprenant ce que c'est la pensée, 2 Corinthiens 10 et 5 dit « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tout ce que je pense doit être captif à l'obéissance de Christ. Parce que le psaume 94, 11 déjà dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » C'est pour ça qu'il nous faut amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ pour produire la sanctification. Qu'est-ce qu'un saint sentiment? Les sentiments, ce champ des sentiments comporte des éléments affectifs et intuitifs. Aimer, détester, soupçonner, réfléchir, etc. Voilà, tous ces éléments affectifs et intuitifs sont les sentiments, d'après le dictionnaire. Qu'est-ce que la Bible nous donne? Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'exemple de la compassion? J'ai même un astérix là. Pour dire que la compassion, c'est un sentiment particulier parce que si c'est la compassion, elle sera forcément suivie d'un acte. Une chose, c'est avoir un sentiment face à la situation de quelqu'un et dire « Ah, le pauvre, et ça reste comme ça. » Mais une autre chose, c'est avoir la compassion, c'est dire « Regarde le pauvre, et voilà, et à la suite, je bouge, je fais quelque chose. » La compassion, c'est un sentiment qui donne par suite une action. C'est bien d'avoir ça dans notre Seigneur Jésus comme un exemple pour nous. Un acte facile, c'est le fait d'agir, c'est une action. Je mange, je m'assois, je parle, je dors, j'écris, je lis, etc. Je fais attention. OK, la Bible nous donne en Proverbe 10, 17, « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Nous avons plein d'actions ici. Comme c'est un livre de sagesse, avec des mots de poésie, voilà, il faut bien savoir qu'il est un peu abstrait. Alors, quand il dit « celui qui se souvient de la correction », c'est vraiment par dire que il a eu la correction, c'est déjà un acte, quelqu'un a corrigé. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette correction? Il la met en pratique, il obéit, il fait ce que la correction donne à faire. C'est ça qu'il veut dire de souvenir. Ce n'est pas seulement « Ah, je me souviens bien, hein, mais je ne vais pas suivre, pas du tout ». Non, ce n'est pas ça. Celui qui se souvient de la correction, de la pratique, prend le chemin de la vie. Okay? Il fait du bien à soi-même. Mais celui qui oublie la réprimande, de nouveau, c'est une façon, peut-être c'est vraiment oublié, mais c'est déjà à cause d'une attitude de mépriser. Mais c'est l'attitude, ici, il dit de l'action de ne pas obéir. La réprimande, c'est une autre action, quelqu'un l'a réprimandé, il s'égare. Voilà, plein d'exemples d'actions. Quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Voyons maintenant un exemple que la parole de Dieu nous donne. Nous pourrons comparer l'attitude, j'ai mis en gras, et l'acte, j'ai souligné. Galates 6, 1, « Frère, si un homme vient être surpris, voilà un acte, quelqu'un l'a surpris, en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-les, on va faire quelque chose à ce propos, avec un esprit de douceur. Ah, comment est-ce que je vais faire ce que je veux faire? Quelle est mon attitude, ma perspective, ma position, mon positionnement devant la réalité? Je le ferai, oui, mais avec quelle intention? De quelle façon? Un esprit de douceur. Et de nouveau, une autre attitude, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Prendre garde, c'est l'attitude qui va générer quoi? Je vais lire la Bible, je vais prier, je vais réfléchir à la réalité autour de moi. Si je fais ça, est-ce que c'est d'accord avec la parole de Dieu? Non, etc. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs ingrédients des actions que je vais prendre qui font partie de cette attitude de prendre garde à moi-même, de peur que je ne sois aussi tenté. Tenté, c'est une action. Satan, il vient, il nous tente, par exemple. OK, la Bible nous parle d'un changement d'attitude. Éphésiens 4, 23, il dit « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ». Qu'est-ce que c'est ça? L'esprit de notre intelligence. C'est une façon de dire dans votre attitude. Comment vous positionnez devant la réalité. Ça doit être renouvelé. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes nés dans le péché. Et la bataille spirituelle est toujours là. C'est-à-dire que chaque fois, il faut renouveler, il faut être sanctifié pour être plus semblable à l'image du Fils de Dieu. Voilà, maintenant nous avons l'exemple de attitude en gras, acte souligné, et la pensée en italique. Matthieu 6, de 1 à 8, gardez-vous de pratiquer votre justice. Voilà, pratiquer la justice, c'est faire des choses qui sont correctes, qui sont bien d'après la vie de Dieu. Mais il y a, la Bible me dit de garder de le faire, oui, pas de le faire en soi-même, mais attention, devant les hommes, pour en être vu. Ça, c'est l'attitude. C'est faire la justice de Dieu ne suffit pas. Pour Dieu, c'est important avec quelle intention je le fais. Et ça, c'est mon attitude, devant les hommes, pour en être vu. Encore, ce n'est pas de ne jamais faire devant les hommes, sinon on ne peut même pas de faire une faveur, donner une aide à quelqu'un qu'il va voir. Non, non, la question n'est pas devant les hommes, mais devant les hommes pour en être vu. Voilà. Autrement, vous n'aurez point de récompense, c'est un acte, dans ce cas de Dieu pour nous, auprès de votre Père qui est dans le ciel. Lors donc que tu fais l'aumône, une action, un acte, ne sonne pas de la trompette, une façon de dire, n'appelle pas l'attention n'importe de quelle façon pour toi, devant toi, comme font les hypocrites. Qu'est-ce que c'est l'hypocrite? L'hypocrite, il donne l'air de quelque chose, mais derrière, l'intention, c'est une autre, et généralement pas bonne, ok? Pas bien ça. C'est l'hypocrite, c'est l'attitude. Dans les synagogues et dans les rues. Afin, voilà, ils font des choses qui donnent l'air bien, mais afin de, ça montre leur intention, leur attitude, afin d'être glorifiés par les hommes. Et vous le disent en vérité, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, bien sûr, c'est une façon abstraite de dire ne cherche pas la reconnaissance. Fais ce que tu fais, fais la justice de Dieu de la bonne façon, sans chercher la reconnaissance humaine, sinon seulement celle-là de Dieu. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père que voit dans le secret te le rendra. L'idée de faire en secret, ce n'est pas de faire un aumône sans que la personne bénéficiée le sache, pas forcément. Sinon, quand on passe dans la rue et quelqu'un demande de l'aide, tu attends jusqu'à ce qu'il regarde de l'autre côté et tu jettes l'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu cherches quand tu le fais? Lorsque vous priez un acte, ne soyez pas comme les hypocrites qui démontrent une chose, mais ont une intention différente, qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin de rue pour, avec l'intention, dans l'attitude d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. De nouveau, c'est une façon de dire, parce que déjà, la Bible nous dit de prier tout le temps. Ça veut dire à l'école, au travail, à la rue, dans l'autobus, avec l'église, etc. Bien sûr, il dit ça pour dire ne cherche pas, que ton intention ne soit pas de chercher la reconnaissance humaine. Alors, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen. Pourquoi est-ce que comme le païen est marqué en gras? Parce que ça veut dire dans la même attitude, la même intention des païens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imaginent, voilà la pensée, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Oui, mais la Bible nous dit d'insister dans la prière. Oui, insister, oui. Mais prendre des formules de prière et répéter, répéter, répéter en pensant, bon, si je dis 10 fois, c'est mieux qu'une fois. Non, ça c'est en vain. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Imaginez-vous, tu es avec un ami à toi, vous vous baladez et il te dit une chose et tout de suite, il répète la même phrase. Il répète la même phrase et tu, normalement, tu diras, mais écoute, j'ai compris dès la première fois, hein, il ne faut pas répéter 10 fois. Voilà, c'est ça, une conversation est naturelle, à un rythme et pas une formule répétée. Voilà une chose très importante maintenant. On a parlé des sentiments, d'actes, d'attitudes, de pensées. Si le sentiment domine, il y a des situations quand le sentiment domine, la joie, la rage, si le sentiment, la doute, la pavor, voilà. Si le sentiment domine, la pensée est bouleversée. Par conséquent, l'acte, l'action qu'on va prendre comme suite de cette pensée qui déjà est bouleversée, parce que le sentiment domine la situation, l'acte ou l'action est mauvais, mauvaise. Et voilà l'attitude, la façon de se poser devant la réalité change. Exemple, Matthieu 22, 7, le roi fut irrité. C'est le sentiment qui domine. Voilà, nous avons dit que quand le sentiment domine, la pensée est bouleversée. Ici, il ne dit pas ce qu'il pense, mais nous arriverons à la conclusion. Nous avons maintenant l'acte. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers. D'accord, ok. Mais regarde, et brûla leur ville. Il dit, attends, brûler, c'est un acte, ce n'est pas une attitude. Oui. Mais qu'est-ce qui est derrière ça? Parce que s'il est fâché contre les habitants de la ville, s'il veut leur punir, s'il veut leur faire souffrir, il faudrait mieux alors, ah, je fais comme ça alors, hein, ils verront, je vais brûler leur ville devant eux, ils vont voir leur maison être brûlée, etc. Ils seront désespérés et après encore, je vais leur tuer. Non, il leur tue, il fait que le troupe le tue, et après qu'ils sont morts, parce que tu vas être d'accord avec moi, après que tu es mort, rien n'importe. Mais après qu'ils sont morts, il brûla leur ville. Voilà, ça ne change rien pour ces gens qui sont déjà morts. Mais c'est ça, le sentiment domine, la pensée est bouleversée, l'acte, l'action est mauvaise et l'attitude change. Voyons encore, le pire, c'est que Satan le sait. Il sait exactement ce truc-là, cette mat du sentiment qui domine et qui rend la pensée bouleversée, qui donne l'action mauvaise et qui change l'attitude. Voyons, Genèse 3, 6 et 7. Voilà, Satan avait parlé à la femme. Que se passe-t-il? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais attends, elle a vu ça, c'est voir, ce n'est pas un sentiment. Pas ici. Ici, c'est seulement une façon de dire parce qu'elle avait déjà vu, déjà quand Adam, le premier être humain, l'a instruit, dit, écoute, voilà, Dieu nous a donné cet arbre ici, mais celle-là, on ne peut pas manger son fruit, d'accord? Voilà, elle avait déjà vu l'arbre, et si c'est bien, si c'est joli, si c'est grand, si c'est petit, etc., elle l'avait vu déjà. Mais que se passe-t-il? À cause des paroles, de la mensongerie du serpent, maintenant elle regarde l'arbre, le fruit, dominé par le sentiment qu'il a réussi à implanter dans son cœur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon, voyons ce que se fera avec sa pensée. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais attends, jusqu'à ce moment, jusqu'à avant la conversation avec le serpent, ce qu'elle avait dans la tête, la pensée, c'était « ça donne la mort plutôt ». ça tue, ça n'est pas bien du, bon du tout et bien du tout. C'est le Dieu qui m'aime, qui fait tout le bien pour moi. S'il dit que ce n'est pas bien, bien, ce n'est pas bien. Pourquoi est-ce que maintenant, sa pensée, elle pense, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà, parce que le sentiment domine, la pensée est bouleversée, et voyons maintenant l'action. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le sentiment domine, la pensée est bouleversée, l'action est mauvaise, et qu'est-ce qui se passera maintenant? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et elle, est-ce que ça, c'est l'attitude qui change? Oui, parce que qu'est-ce que c'est ce truc-là de les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir? Nous savons qu'avant ça, ils ne marchaient pas aux yeux fermés par le jardin, tombant dans le lac, frappant les arbres. Non, non, ils avaient les yeux ouverts, ils voyaient tout. Voilà. Mais maintenant, ils voient la réalité d'une façon différente. Ils se positionnent devant la réalité d'une façon différente. Le sentiment domine, la pensée est bouleversée, l'action est mauvaise et l'attitude change. Et alors maintenant, avec une nouvelle attitude, voyons ce qui se passera. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce que c'est ça, ils connurent qu'ils étaient nus? Ils ont toujours su qu'ils étaient nus. Ils savaient qu'il n'y avait rien sur leur corps. Ils savaient ça. Ah, mais maintenant, le sentiment à propos de leur nudité, c'est différent. Parce que l'attitude a changé. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Voilà une action différente à cause d'un sentiment différent, à cause d'une attitude, un positionné différent devant la réalité. Et nous savons que déjà, c'est, voilà, sinon la première, une des premières façons de religion dans le monde. Parce que qu'est-ce que c'est la religion? La religion, c'est moi essayant de faire la justice de Dieu à ma façon. La justice de Dieu se fait seulement d'une façon, à la façon de Dieu. D'accord? Ou nous sommes nus, mais non, il faut couvrir. Bon, déjà, comme Dieu même va dire après, qui t'a dit que tu étais nu. Et se couvrir avec des feuilles, ce n'était pas vraiment la bonne solution. Mais c'est ça la religion. Faire ce qu'on pense être bien devant Dieu à notre façon. Je sais corriger la situation. Voilà, continuons. Alors, pensée influencée, acte. Donne un acte ou une action qui, après une répétition, je le fais, je le fais, je le fais, le sentiment est trompé. Ça que me donnait, par exemple, de l'honte auparavant, avec un peu de temps, ou, voilà, je répète, et je commence à être à l'aise. Et l'attitude est changée. OK? Quand la pensée est influencée. Voyons la Bible, psaume 1 et 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne se laisse pas être influencé par les méchants. Qu'est-ce que c'est le résultat? Il ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Pourquoi? C'est qu'il se laisse être influencé par le conseil de méchants. Quand il passe sur la voie des pécheurs, il va s'arrêter, il va faire quelque chose à la suite de cette influence qu'il a reçue. Et voilà, et que ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Si nous enlevons tout le négatif de cette expression, voyons, un homme qui est influencé par le conseil méchant, qu'est-ce qu'il va faire? Son acte, son action, il va s'arrêter là, dans leur voie. La première fois, peut-être, il sera un peu gêné, il regarderait d'un côté, d'un autre, si ses amis le regardent, etc. Mais après une douzaine de fois qu'il fait ça, je me sens mieux déjà. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assit à la compagnie de moqueurs. C'est déjà l'attitude qui dit, oui, je veux ça pour ma vie. Alors, pensée influencée génère une action qui, après des répétitions, change aussi le sentiment et parfois change l'attitude. C'est pour ça que Philippiens 2 et 5 dit, ayez en vous l'attitude qui était en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je mets comme ça l'attitude? Quelques versions auront le sentiment, quelques versions donneront en français la pensée. Mais alors, c'est le sentiment ou c'est la pensée? C'est parce que vraiment, le mot qui est en grec là, derrière cette traduction, nous donne vraiment l'idée de l'attitude. Et voilà que la Bible nous dit, ayez en vous l'attitude qui était en Jésus-Christ. Ça nous donne la grande humilité de Jésus comme exemple. Philippiens 2, 5 à 8 dit, ayez en vous les sentiments, d'autres traductions diront la même pensée, qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, pardon, homme, pas bien ça, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. OK. J'ai mis deux versions ici pour montrer que, par exemple, la version Darby dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, et lui seconde donne ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Derrière ça, le grec donne l'attitude. OK. Lequel? Et alors, quelle était l'attitude du Seigneur Jésus que nous devons imiter, nous devons avoir en nous? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça parle de mes droits essentiels et mon détachement. Voyons, lequel existant en forme de Dieu, oui, il n'est jamais arrêté d'être Dieu pour être un être humain. C'est son essence, être Dieu, surtout. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et ça me parle à moi de mes droits essentiels, les choses que je dis, ah non, mais ça, c'est le minimum, hein? Ça, il me faut. Non, l'exemple que le Seigneur Jésus nous donne me parle de mes droits essentiels et mon détachement de ces droits. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Maintenant, ça parle de mes droits essentiels et le lâcher prise. Il s'est même dépouillé. Okay? Il s'est détaché et il s'est dépouillé. Il a lâché prise. Et ça, c'est un exemple pour moi, pour que la sanctification puisse avoir lieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il se rendant quoi? Obéissant. Voilà le lâcher prise et les conséquences ultimes. Oui, lâcher prise jusqu'aux dernières conséquences. Et même nous savons déjà, je reviens un peu, que ça, ce n'est pas pour toute l'éternité. Au contraire, le plus que nous le faisons maintenant, que c'est un peu de temps par rapport à toute l'éternité, le plus que nous serons récompensés devant le tribunal du Christ, et aurons mieux encore. Nous savons ce qui nous attend, c'est merveilleux. Et les récompenses pour notre fidélité, plus encore. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 et 11. Et voilà, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il commence sa déclaration par l'expression « c'est pourquoi ». Ça veut dire, à cause de cette attitude du Seigneur Jésus, il a eu une conséquence, une récompense. C'est pourquoi. 1 Corinthiens 2, 9 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu dira à quelques-uns de nous, voilà, c'est pourquoi maintenant tu vas recevoir ça et ça et ça. Parce que, voilà, tu t'as laissé être sanctifié pour moi, tu as cherché à être près de moi et faire ma volonté pour ce peu de temps avant d'arriver ici. C'est pourquoi, voilà, on veut la récompense. Ça demande un changement aujourd'hui. Matthieu 21, à partir du verset 28, dit « Qui vous ensemble, un homme avait deux fils ?» Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père ? Du Père, ils répondirent, le premier, et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Ça veut dire, les publicains et les prostituées, a priori, ils disent non, nous ne suivons pas la volonté de Dieu. Mais à la fin, vraiment, ils suivent. Mais celui-là, ces religieux qui disent oui, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu, le Messie est là, suivez-le. Ils disent non, nous n'allons pas. Alors, un changement aujourd'hui. Matthieu 21, 29, ensuite il se repentit et il alla. Si on était au présentiel, je poserais la question pour voir les réponses. Lequel des deux fils s'est repenti? La Bible verbalise ça pour l'un de deux. Mais c'était les deux qui se sont repentis. Parce que dans la Bible, se repentir, c'est changer de chemin, changer d'avis. J'allais par ici, mais maintenant, je vais par ici. Et voilà, on peut repentir d'une attitude méchante et tourner vers Dieu, mais il y a ceux qui se repentirent de suivre le chemin de Dieu et se détournent. On peut se repentir du mal vers le bien et vice-versa. Et alors, je laisse la question. Repentir, oui, on change fréquemment dans la vie. Chaque jour, il y a des choix à faire et à refaire. Mais repentir, oui, la question c'est quelle direction? Voilà la volonté de Dieu. Votre sanctification. La sanctification demande un changement aujourd'hui. Demande se laisser être influencé par Dieu, qui nous donnera les bonnes pensées à propos de la vie, le correct sentiment à propos de chaque situation, des bonnes actions dans la vie, et une attitude comme celle-là du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Prions une fois encore. Dieu d'amour, Père éternel, merci Seigneur, et gloire à ton nom pour ce que tu es. Et à cause de ce que tu es, ce que tu nous donnes. Déjà ta parole merveilleuse, riche, pleine de lumière pour notre chemin. Ô Seigneur, aide-nous à avoir la même attitude de notre Seigneur Jésus. Rappelle-nous à chaque instant de nous faire être influencés par ta parole et de sans ressentir n'importe quoi de la même façon que tu le ressens et de penser d'après ta justice et d'agir comme conséquence naturelle, comme tu agirais toi aussi. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Nous te prions au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.